avec Benoît Marchal.
Bienvenue pour cette émission de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Une émission qui, je crois, j'espère, intéressera beaucoup de photographes. Et j'avoue que ça s'est révélé tout au long de la préparation de l'émission. En effet, en enregistrant, on avait plutôt prévu une émission pour débutants. L'idée étant d'apporter un éclairage complémentaire à la question du débutant, la question, c'est-à-dire quel boîtier choisir. Comme nous sommes dans une période de changement, avec de nouveaux produits qui apparaissent sur le marché, je crois que nous sommes arrivés à un éclairage qui intéressera des photographes de tout niveau. Notre invité explique d'ailleurs qu'un marché à maturité, c'est le moment où les attentes sont les plus différentes et donc c'est le moment où les marchés de niche apparaissent. Et en pratique, c'est vrai que ça crée de la confusion aujourd'hui entre les compacts experts, les compacts à objectifs interchangeables, la vidéo sur réflexe, la visée de la view, etc., etc. Pour parler de tout cela, on rencontre aujourd'hui Mathieu Lanier de Sony France et ensemble nous avons essayé de décoder certaines tendances dans le marché, ainsi que certaines nouveautés qui parfois surprennent les photographes. Et ne ratez pas à ce propos la discussion sur les couleurs. Je le redis chaque fois qu'on reçoit une marque sur Déclencheur. D'une part, je crois que ces rencontres sont instructives. Je sais pour ma part que ce genre de conversation m'aide à comprendre les annonces et les produits. Et donc, quand j'ai l'occasion d'enregistrer la conversation, autant que tout le monde en profite. Mais il n'y a pas que moi, je note d'ailleurs souvent dans les commentaires que cet éclairage, vous le trouvez complémentaire. Des éclairages, je veux dire, plus classiques, comme les annonces ou les tests de matériel. Mais en même temps, il faut accepter que, par définition, Mathieu connaît mieux la gamme et les produits de Sony que ceux des autres fabricants. Et donc, on n'allait pas, évidemment, lui demander de comparer. Sur ce plan, vous prendrez ce qu'il y a à en prendre. Avant de laisser partir l'interview, je vous invite à visiter le site de Déclencheur, www.déclencheur.com. Il a fait peau neuve, le nouveau design est, je crois, beaucoup plus clair. Et sur le site, vous trouverez, entre autres, l'archive complète des émissions depuis 2006, pas mal d'autres documents photos. Et puis surtout, vous pourrez laisser un commentaire ou réagir sur cette émission ou toutes les autres émissions de Déclencheur. À ce propos, si vous aimez cette émission, si vous appréciez Déclencheur, je vous invite à en parler autour de vous, partagez le lien. Vous trouverez également sur le site de Déclencheur des outils pour partager nos émissions, notamment sur Facebook et sur Twitter. Et c'est parti pour l'interview. Vous écoutez l'émission Déclencheur Silver. Les membres de Déclencheur Gold profitent d'une interview de 45 minutes sur ce sujet.
Mathieu, bonjour.
Bonjour Benoît.
Donc Mathieu Lanier, tu es chef de groupe marketing chez Sony, en charge de la photo et de la vidéo pour le grand public, c'est ça ?
C'est absolument ça.
Sony dans le monde de l'image en 30 secondes ?
Sony est une société qui est un des pionniers en matière d'imagerie numérique, puisqu'on a 25 ans d'expérience en matière de caméscope grand public et caméscope numérique. Et on est également une des sociétés pionnières en photo numérique, puisque nous avons été un des tout premiers acteurs à nous lancer sur ce marché. Et on est aujourd'hui leader du marché des caméscopes et un des leaders suivant les différentes régions en photo numérique. Sur le marché français, en fait, en compact, on est plutôt deuxième. En réflexe, on est plutôt troisième. Et puis en caméscope, nous sommes leader en volume et en valeur.
C'est marrant parce que Sony, moi je pense toujours à une télévision.
C'est un de mes objectifs et c'est une des choses sur lesquelles tous mes collègues des ventes, du marketing, de la communication, nous travaillons. C'est de montrer de plus en plus que Sony est une vraie marque photo et qu'on en a la capacité, pas seulement par le matériel, mais à travers des expériences que l'on propose, à travers plein d'événements liés à la photo, qu'on a la capacité à proposer, à nourrir aussi cette passion autrement que par le matériel.
Je trouve intéressant qu'on se parle parce qu'il y a beaucoup de changements dans le marché de la photo aujourd'hui. Et j'ai réalisé comme ça que vous étiez le seul fabricant à avoir à la fois des téléphones portables qui sont capables de faire des photos, des compacts à objectifs interchangeables, je déteste ce nom, mais enfin c'est le nom de la catégorie, des réflexes, des caméscopes. Donc je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir une discussion avec toi et de réfléchir à comment on va pouvoir guider, comment est-ce qu'on va se placer dans ces gammes de produits.
Comment est-ce qu'on peut les organiser, comment est-ce qu'on peut orienter les gens, si on
voilà.
Le peut.
Si on le peut. Vaudrait mieux à un moment.
Il y a quelques années, quand quelqu'un avait pris la décision d'acheter un appareil photo, il allait voir son distributeur et généralement c'était le distributeur qui faisait le gros du travail. Mais de plus en plus, notamment depuis l'arrivée d'Internet, chaque utilisateur a une multitude d'opportunités pour l'aider à se guider, à choisir et à se faire l'opinion la plus valide et la plus solide. Donc c'est vrai que le marché a énormément évolué ces trois dernières années. Et que quelqu'un qui veut acheter un appareil photo a la chance de pouvoir avoir un choix qui est extrêmement large, mais qui parfois peut être aussi un peu anxiogène et un peu confusant. Tu citais en préambule les téléphones. Mmh. quand j'ai commencé à travailler dans l'imagerie il y a bientôt 5 ans, l'ensemble des fabricants d'appareils photo avaient extrêmement peur qu'en fait ce soit le téléphone portable qui prenne la place des appareils photo. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite que les deux marchés pouvaient continuer à évoluer, qu'on avait les mêmes utilisateurs, mais que c'était deux utilisations qui étaient complètement différentes et que la plupart du temps, l'un n'empiétait pas sur l'autre. Le téléphone portable est l'appareil photo qu'on a le plus souvent sur soi en permanence. Donc c'est un bloc-notes pendant la semaine, ça va de la photo de sa place de parking qu'on va prendre avant d'aller prendre son avion ou son train, et pour se souvenir où on l'a pris, à la photo de ses enfants quand il y a une scène qu'on a envie d'immortaliser, et voilà, malheureusement on n'a pas toujours l'appareil photo dans le sac à main ou dans la poche, et ça se conjugue à une utilisation sérieuse de l'appareil photo le week-end, pendant les vacances. Donc c'est vraiment des utilisations qui sont complémentaires. Juste si on fait un petit parallèle en regardant les taux d'équipement en France, je crois que la téléphonie mobile, le taux d'équipement français est de l'ordre de 86 ou 87%. Les possesseurs de téléphones portables, on se parle de foyers français.
86% des Français.
86% des foyers français sont équipés d'un téléphone portable. Quand on regarde la micro-informatique, on est proche des 70%. Et quand on regarde l'appareil photo numérique, on est à peu près sur le même taux d'équipement, proche de 71%. Et dans les deux cas, ce sont des taux qui continuent à progresser. Et donc, ça montre bien qu'il n'y a pas d'opposition. Il se vend un peu plus de 4 500 000 appareils photo compacts en France.
Toutes marques confondues.
Toutes marques confondues et en photo numérique. Et donc, sur 4 500 000 appareils photo, on va avoir des gens qui vont être très experts, qui font de la photo depuis longtemps, qui vont acheter un compact, comme on va avoir des personnes qui sont des entrants et qui, pour la première fois de leur vie, vont acquérir un appareil photo compact. C'est certainement au sein de cette population d'utilisateurs que c'est le plus compliqué d'expliquer quelles sont les différences et de guider sur le choix d'un appareil. Quand on se parle des compacts, c'est certainement là où il y a le plus grand champ des possibles, la plus grande multiplicité de comportements de consommation. Et comme on est sur un marché qui est extrêmement mature, chaque utilisateur va de plus en plus vouloir que, si possible, son appareil soit unique et différent de celui que mon frère, ma sœur, mon ami, mon voisin va avoir. Me vient une anecdote. Il y a quelques années, on avait fait régulièrement des études en réunissant des utilisateurs d'appareils photo et en leur mettant un appareil entre les mains et en leur demandant comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous en pensez. Alors, il y a des études qui sont plus ou moins orientées sur des raisons précises. Il y a quelques années, en fait, on demandait aux gens, pour vous, c'est quoi régler manuellement son appareil photo? Je dis ça, il n'y a absolument rien de méprisant dans ce que je dis, mais ça nous avait vraiment confrontés à la réalité. Première réponse d'un des participants à ce petit focus group, régler sa photo manuellement, c'est juste utiliser les modes scène. Donc là, vous voulez faire un portrait, bah vous réglez manuellement sur le mode portrait, et puis comme ça, vous allez faire un portrait. Et vous voulez faire un paysage, c'est le mode paysage.
J'ai l'impression qu'il y a un phénomène de mode qui joue beaucoup. On a des couleurs, quand il y a une nouvelle série qui ressort, c'est quasiment les mêmes que le précédent, sauf que la couleur a changé. Tu me regardes avec un regard noir quand
non,
je dis
non,
ça.
Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est souvent vrai. Il y a encore 3-4 ans, quand les marques, dont Sony, commercialisaient des appareils photo, on offrait le choix entre ce qu'on appelle le silver, donc du gris métal ou du noir. Et ils se vendaient du silver ou du noir, point barre. Et puis les premières marques, dont Sony, sont arrivées avec des appareils qui avaient des couleurs un petit peu plus acidulées, où on prenait des grands risques puisqu'on osait mettre sur le marché un appareil qui était rose ou bleu ou rouge, ce qui était des risques absolument terribles. Et aujourd'hui, quels que soient les niveaux de prix, qu'on se parle d'appareils qui vont être vendus 120, 130 euros, ou qu'on se parle d'appareils qui vont être vendus au-delà de 250 euros, on est sur des couleurs qui non seulement vont évoluer au gré des saisons, et non seulement on les propose à la commercialisation, mais ils se vendent. C'est-à-dire que quand on interroge les distributeurs aujourd'hui, il n'existe plus de couleurs qui soient archi-dominantes. Peut-être que le noir va représenter encore un gros tiers des ventes à lui tout seul, mais derrière, on a très souvent des couleurs derrière très segmentantes qui, il y a quelques années encore, ne se seraient pas vendues, qui remportent un vrai succès. Et après ça, on va avoir des petites choses qui permettent de s'y différencier, parce que c'est vrai que les critères que j'ai cités, pour une marque, il faut être clair, sur ces critères-là, ça devient de plus en plus difficile de se différencier. Sur un même niveau de prix, dans des designs qui sont de plus en plus similaires, de plus en plus d'appareils vont avoir le même nombre de mégapixels, vont avoir une taille d'écran similaire, vont offrir des zooms 4 ou 5 avec un stabilisateur. Et puis, des petits modes, des usages qui peuvent être différents et qui peuvent, si le design de son appareil n'est pas si différent de celui du voisin, mais au moins un usage, un mode photo qui va leur permettre de faire des images qui vont être un peu uniques. Et je pense, par exemple, c'est quelque chose qui est très Sony, mais le mode panorama, On a souvent des gens qui nous disent « c'est un nouvel usage, avant je faisais des photos, et puis j'ai découvert le mode vidéo de mon appareil photo, puis maintenant je découvre le mode panorama et je m'amuse de plus en plus à faire des photos panorama un peu dans toutes les situations ». Donc voilà, ce sont ce type de critères-là qui vont faire la différence au moment de l'achat.
Donc on est sur les compacts. Quand on veut monter en gamme, on arrive sur des compacts experts ou ce que vous venez de lancer, des compacts à objectifs interchangeables.
Aujourd'hui, on a fait énormément d'études à travers toute l'Europe. Et le chiffre le plus parlant, 88% des personnes que nous avons interrogées, qui étaient des utilisateurs de compacts, 88% d'entre eux nous disaient « le réflexe, c'est pour les experts ». Et je crois que de mémoire, le chiffre était 53% d'entre eux nous disaient un réflexe, c'est trop gros. C'est un produit inaccessible. Voilà, c'est un produit anxiogène, inaccessible, parce que je ne suis pas expert et donc ce n'est pas fait pour moi et il me faut quelque chose de différent. C'est la raison pour laquelle on va retrouver en fait les mêmes capacités que sur un compact. Donc, on va trouver aussi des fonctions que pour nous, on estime assez grand public, comme par exemple le mode panorama dont je parlais tout à l'heure. On va retrouver quand même les mêmes petites joies simples que sur son compact, mais avec une qualité d'image qui n'a strictement rien à voir.
D'accord.
C'est une catégorie qui, à mon avis, va prendre de plus en plus d'essor sur le marché français. Je voudrais faire juste un parallèle avec le marché des compacts. Pourquoi est-ce qu'un appareil photo compact, d'année en année, si on mettait deux appareils avec les mêmes caractéristiques, le même prix, systématiquement, le grand public va acheter le plus petit d'entre les deux? C'est bien que le souci de compacité, de portabilité, de mobilité, on va dire, d'un appareil photo, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et la raison pour laquelle je pense que cette catégorie de produits va être amenée à évoluer assez fortement, c'est parce que le format, l'encombrement, est beaucoup plus simple d'utilisation qu'un réflexe classique. Faire un voyage avec en permanence autour du cou un réflexe qui va peser avec l'optique pas loin de 500 à 600 grammes et qui se balade sur le... C'est un petit, je parle d'un réflexe expert, avec l'optique on va rapidement être au-delà du bon kilo, c'est fatigant. Et donc pouvoir s'assurer de la même qualité d'image avec un appareil qui va être réellement compact et hormis l'optique qui va pas être tellement plus encombrant que l'appareil que l'on utilisait avant, que le compact numérique qu'on utilisait auparavant, c'est quelque chose qui est une attente très forte de la part des utilisateurs. Sur ce type d'appareil, c'est plus un zoom standard, donc type 18-55, qui est vendu chez Sony ou chez d'autres. Il va avoir des focales différentes suivant le capteur. C'est finalement ce qui est le plus encombrant dans l'appareil, c'est plus la taille de l'optique. C'est peut-être le seul compromis que l'utilisateur en a à faire. Sur l'utilisateur un peu plus expert, c'est clairement le viseur. Et là, je pense que certains de tes lecteurs, mais des auditeurs de déclencheurs diront, mais ça c'est spécifique à Sonic parce que nous ne proposons pas de viseur électronique, mais je pense que ce type d'appareil a vraiment pour vocation à proposer la compacité la plus extrême. Donc oui, suivant la population, ce sont les deux compromis que leurs utilisateurs auront à faire.
On continue à regarder les boîtiers. Il y a une catégorie dont on n'a pas encore parlé, ce sont les réflexes. Et là, même question essentiellement, quels vont être les critères de sélection?
Le critère de sélection, je pense qu'il est, on va dire que le prix et l'expérience que l'on peut avoir de ce type d'appareil va vraiment rentrer fortement en ligne de compte. Après ça, effectivement, ça va être l'expérience que l'on peut avoir de l'appareil photo. Je ne me moque pas, mais je l'ai vu dans mon entourage quand Sony a commencé à lancer les premiers réflexes. Quand on prêtait des Alpha 100 à des collègues qui n'avaient pas l'expérience de ce type d'appareil, la première réflexe qu'ils avaient, c'était de cadrer par l'écran. Ils disaient, mais il marche pas, l'écran marche pas, je vois pas la photo. Donc c'est ce qui fait ce type de problématique que le live view, pour des débutants, est un élément important. Après ça, donc, on a fait une étude, on a interrogé un peu plus de 300 personnes acheteurs d'appareils plutôt amateurs experts et experts, donc des gammes entre l'Alpha 550, le Nikon D5000, le Nikon D90, le Canon 550, et puis des boîtiers plus experts, des anciens utilisateurs de l'Alpha 700, Canon 7D, Nikon D300S, etc. Eh bien, le critère du nombre de mégapixels sur ces 330 personnes interrogées était encore le troisième critère cité. À la limite, ce qui nous avait le plus surpris dans cette étude, parce qu'on pensait justement que s'il y avait bien une population qui s'en fichait,
qui était bien au courant,
qui était bien au courant, que c'était pas forcément le plus important. Voilà. Donc, ce qu'ils appellent la qualité d'image va rentrer en ligne de compte très fortement. Donc, la qualité d'image, c'est quoi? La qualité d'image en basse lumière, le nombre de mégapixels, l'autofocus également, la qualité de l'autofocus est un critère déterminant.
Si je te comprends bien, ce que tu veux dire, c'est que quand on est sur des gammes un peu plus amateurs, on a déjà assez d'expérience pour savoir ce qu'on veut, en fait.
On a déjà plus la capacité à savoir où se renseigner. Mm-hmm. On a plus la capacité à savoir la maturité, l'expérience, pour savoir quels sont les critères qui vont avoir de l'importance et pour hiérarchiser ces critères. Si je prends quelqu'un qui est déjà habitué à l'utilisation d'un réflexe, quand il va devoir choisir le réflexe d'après... Aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut se poser la question d'un compact objectif interchangeable, il peut se poser la question d'avoir un réflexe de même niveau de prix à peu près dans la même gamme, ou alors il peut se poser la question de sérieusement faire évoluer son matériel. Ou alors il peut se dire, bah, je vais garder mon réflexe, et puis c'est plutôt mes optiques que je vais faire évoluer. Mais cette question-là, cette personne-là a beaucoup plus la capacité à se la poser lui-même et à trouver les bonnes réponses facilement dans son entourage, sur Internet, dans la presse ou chez les distributeurs, que la personne qui, pour la première fois, va se trouver confrontée à l'achat d'un compact et qui, lui, hormis le nombre de millions de pixels, qui va peut-être lui parler parce qu'il se trouve beaucoup plus dépouillé par rapport à cette prise de décision-là. J'ai l'impression que sur ces gammes, enfin, quand on a un petit peu plus la connaissance, les personnes vont prendre un peu moins de risques. C'est-à-dire qu'ils vont souvent essayer le matériel et ils vont avoir un processus où ils vont se renseigner pendant un mois, deux mois, trois mois. Dans les études Sony avant achat, on se rend compte que le processus avant achat est de plus en plus long.
Mathieu, merci d'avoir pris le temps de nous guider un petit peu
merci
dans
Benoît, merci
ce
beaucoup.
Monde changeant de la photo actuellement. Merci, salut.
Merci beaucoup, bonne journée.
Il me reste à vous remercier de votre écoute. Pour ne rater aucune émission de Déclencheur, je vous invite à vous abonner. L'abonnement est complètement gratuit. Il s'agit simplement de vous tenir informé de la sortie des nouvelles émissions de Déclencheur et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement, y compris iTunes, RSS, donc Google Reader, Netvibes et tous les agrégateurs de ce type, Twitter, Facebook et bien entendu ce bon vieil email.
Vous écoutez Déclencheur Silver. Pour approfondir ce sujet, choisissez Déclencheur Gold sur www.déclencheur.com.